Bonsoir à toutes et à tous, c'est Lighty et je vous souhaite la bienvenue pour l'hebdoponie numéro 137. Avec pour ce soir, la liste des scénaristes potentiels qui se réduit un peu plus pour l'actualité, des comics et des livres dans les produits dérivés, divers contenus dans le fan média, le résultat du passage à la télévision de AC Race Based dans la communauté, et une idée de catégorie de cosplay pour les conventions dans les news insolites. Ouvrons l'actualité avec une nouvelle annonce de scénariste qui ne sera pas présente. C'est Jennifer Skelly. Bon, ce nom ne vous dit peut-être pas grand-chose, puisqu'elle a réalisé que l'épisode Bug Ball Station dans la saison 6. Et elle a révélé sur Twitter qu'elle ne sera pas présente dans la saison 7. Alors, bon, il y a quand même un petit bonus dans cette news. Elle espère particulièrement être présente dans la saison 8. Oui, vous avez bien entendu. Une saison 8 est peut-être prévue. Et c'est la première fois qu'un membre de l'équipe scénaristique évoque explicitement le chiffre 8 à côté du mot « saison » pour MLP. Par contre, ça devient le désert sur les écrivains potentiels, et si vous regardez le cast de scénaristes présents dans la saison précédente, seuls Megan McCarthy, les frères Fox et Nick Confallon sont confirmés. Mais c'est une liste très maigre, donc ça signifie que nous aurons de nouveaux noms qui seront cités dans l'écriture de la saison 7. S'ensuit après cela une interview de l'éditeur d'IDW pour les comics MLP, en la personne de Bobby Curnow. Cette interview non-spoiler a été réalisée pour fêter la sortie prochaine du comics numéro 50 de la série principale. L'essentiel de cette entrevue se concentre essentiellement sur la série en elle-même, sur son travail, sur le concept de Chaos Theory, et enfin sur la grosse année 2017 qui commence, et qui s'annonce enrichissante aussi bien sur les comics que sur la licence en elle-même. Passons aux news conventions avec tout d'abord la Winnie City Ponycon qui annonce la venue de 3 invités et paradoxalement a besoin d'aide pour l'organisation de leur événement. Pour la partie invités, ce sont Rebecca Swatchett, la doubleuse de Sunset Shimmer et de la voix chantée de Twilight, de Claire Corlett, doubleuse de Sweetie Belle, et de son père Ian James Corlett qui dans la série n'a doublé que Silver Shield dans Lept of Fate, mais qui a également une liste impressionnante de doublages allant des mangas aux dessins animés occidentaux. Voilà pour la partie invité. Pour ce qui est de la partie aide, la convention a vu les choses en grand et ont besoin de bénévoles pour assurer l'événement avec en échange plusieurs avantages, comme l'accès aux coulisses par exemple. Si ça vous intéresse, vous pouvez postuler sur l'application de la convention. Quant à la date et le lieu de celle-ci, ce sera du 31 mars au 2 avril à Schaumburg dans l'état de l'Illinois. Du côté de la Bronycon maintenant, ils viennent d'ouvrir leur concours de PMV. Cela s'adresse surtout pour ceux faisant dans le genre PMV et non animation. Il y a un Google Doc dans le lien de la page live où vous pourrez trouver tous les détails et conditions ainsi que les deadlines pour envoyer votre création aux équipes chargées du concours. Passons des États-Unis en Thaïlande avec les tickets de la Siponicon qui sont maintenant en vente, ou plutôt en vente à durée limitée car pour le nouvel an chinois, ils sont à prix réduit. Alors ces billets sont aussi limités que la date pour les obtenir. Elles sont programmées du 28 au 30 janvier, donc vous avez aussi jusqu'à lundi dernier délai pour les avoir. Le lieu de la convention se passera à Bangkok et sera du 19 au 20 août. Terminons la partie convention et l'actualité avec les co-directeurs de l'animation de la série qui seront présents à l'Everfree Northwest 2017. Ce sont donc Tim Stubbe qui a commencé comme simple animateur dans les premières saisons et qui a fini directeur pour les saisons 6 et 7, et Denny Lou, directeur lui aussi mais également animateur, graphiste et illustrateur. Ils seront alors présents à cette convention qui se passera du 12 au 14 mai à Seattle dans l'état de Washington. Attaquons maintenant les produits dérivés. On commence d'abord avec la Coast to Coast Comic Con qui révélera la cover exclusive d'un comics MLP. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est cet événement, c'est un live stream qui fait office de coup d'envoi à la Comics Convention Session et dont la première édition remonte maintenant à 4 ans. L'année dernière, ils avaient présenté divers articles exclusifs à la licence et cette année ne fera pas exception car ils ont élargi la révélation d'articles exclusifs. Et parmi ces articles se trouverait une cover exclusive jamais publiée pour le comics numéro 51 de la série principale. Cette révélation serait prévue pour le 4 mars. La news précédente concernait le comics numéro 51, la news qui suit concerne le comics précédent, en l'occurrence le comics numéro 50, qui concerne le dernier chapitre de Chaos Theory, car la preview longue de ce comics a été publiée. On y découvre dans les pages fraîchement révélées que Celestia est découragée par les paroles de Luna sur le fait qu'Accord ferait un meilleur chef, et pour la princesse du soleil, elle a raison, et il ferait un meilleur dirigeant qu'elle, dû sans doute à une précédente aventure dans l'arc Reflection où les sœurs princesses ont vu et ont dû affronter leur version alternative et maléfique, ce qui rend furieuse Starlight qui ne veut pas voir la princesse baisser les bras. Pour voir le dénouement de cette aventure, il faudra voir si, à l'heure de diffusion de cette émission, si le comics n'est pas déjà sorti, car elle est prévue pour le fin janvier, donc il peut sortir à tout moment. Si le comics numéro 50 n'est pas encore sorti alors qu'on approche de la fin du mois, celui sur le Friend Forever numéro 36 avec Rainbow Dash et Sorin est lui quand même sorti. Il est disponible sur toutes les plateformes concernant comme Comixology ou iTunes par exemple. Le prochain comics à sortir en février sera l'avant-dernier de la série avant que le passage de relais ne se fasse en avril pour laisser place à Legend of Magic. Mais pour le moment, ce sera avec le numéro 37 qui sera sur le duo Rarity Trixie. On enchaîne maintenant avec un spoiler saison 7, enfin pas encore confirmé mais qui va l'être dans les prochains mois. Le comics numéro 53 de la série principale a dévoilé son synopsis et sa cover. Ce comics est prévu de sortir en avril et marquera la fin de l'arc sur l'histoire secrète d'Equestria. Twilight, après que ses amis ont été piégés par Shadowlock, devra mettre le sabot sur son agenda secret afin de lui permettre de mettre fin à son plan maléfique. La particularité de ce comics est que la cover originale est tirée d'une de ses pages et qu'il possédera une fin surprenante. Une news supplémentaire mais qui fait écho à la rumeur sur la canonisation de cet arc dans la saison 7 concerne le moment où cette saison sera diffusée, car ce comics est pour avril. Ce qui peut donner un indice en plus pour situer précisément la sortie TV de la saison 7. Passons des comics au livre avec un nouveau livre qui a été annoncé. Il s'appelle My Little Pony We Are Family, avec une particularité assez troublante, avec Fluttershy et Discord. Si la réaction du Discord sur l'enlèvement de Fluttershy dans l'épisode final de la saison 6 avait l'air anodin, ce livre pourrait donner un sens plus différent qu'on ne le pense, car ce petit livre de 32 pages et qui coûtera 4,99$ parlera des différentes familles présentes dans la série, ce qui va de la famille princière aux sœurs princesses en passant par la famille Apple. Mais il parle de la famille que forment Discord et Fluttershy. Ça reste une petite révélation, mais une révélation quand même, car cela pourrait être visité dans la saison 7 au vu du dernier épisode diffusé à ce jour. Quant à la date de sortie, il est daté pour le 11 avril 2017. Toujours dans les livres, avec la maison d'édition Hachette qui a listé 5 livres en rapport avec le film de 2017. Ils sont tous programmés à être sortis le 29 août, et ils sont tous passibles de spoiler, car ils dévoileront sans aucun doute le plot principal du film, et peut-être même la fin. Les prix varient selon le contenu, cela va de 4,99$, 6,99$ et 9,99$. Mais celui qui peut intéresser le plus dans la liste est celui qui coûte 15,99$, avec un peu plus de contenu que les autres. Les pages varient aussi, allant du plus petit au plus grand. 12 pages, 32 pages pour 2 livres, 40 pages pour le plus cher et enfin 144 pages pour le dernier de la liste. Livre toujours avec un livre polonais qui met Rainbow Dash en route pour la ville des ânes. Dans cette histoire, Erdi partira vers Donkeyville, la ville des ânes, pour y découvrir un trésor légendaire. Le livre est fourni avec une bling bag de la Pégase. Ça reste intéressant car il n'y a jamais eu mention dans la série d'une ville pour les ânes. A voir si cela va être visité prochainement. Transition figurine avec McDonald's qui a ses figurines MLP en vente sur le continent américain. Mais pas seulement, ils le sont aussi sur le continent australien. Il n'y a aucun changement par rapport à celle des États-Unis, mais la partie intéressante est le visuel en détail sur la figurine Rainbow Dash qu'un Australien a pu se procurer. On remarque des différences marquées sur le moule et semble être inspiré des figurines maintenant en vente sur le marché. Par contre, on repassera sur la cutie mark qui a été ratée sur les couleurs. Le paint quant à lui sert évidemment à brosser les poils de queue, mais peut être aussi utilisé comme socle car on peut clipser la figurine dessus. Pour la sortie en France, il faudra attendre probablement en été. Toujours avec les figurines, deux figurines de la gamme Garden of Harmonies ont été listées sur Target. Ces deux figurines avec leurs accessoires sont Daring Do et tout ce qui se rapporte avec ses aventures, et Applejack avec son lasso. Elles sont avec le même prix, en l'occurrence 9,86€. Parlons peluches avec des petites peluches originales qui sont maintenant en vente sur Hallmark. Alors ce sont des peluches qui se tiennent sur une seule base et dont le prix est de 6,95€ et chacune mesure 2,25 cm de hauteur. Vous aurez le choix entre Twilight, Fluttershy, Pinkie Pie et Rainbow Dash. Du côté des peluches fabriquées par Hasbro, ils sont maintenant visibles en images. Elles existent en 5 et 10 pouces pour les Main Six, mais les versions de Celestia et Luna sont en 12 pouces. Ces peluches seront donc le line-up pour la saison 2017. Allons voir du côté des promos de type public car il y en a actuellement. La plupart de ces promos concernent les nouveaux t-shirts avec un logo inédit, mais aussi quelques-uns populaires, mais qui ont une durée de promotion moindre. Ils sont en promo pour 14$, mais vérifiez le timecode sur l'article en question pour vérifier que vous pouvez le prendre en promotion. Terminons la partie produits dérivés avec le traditionnel Random Merch, mais qui a une particularité. Il concerne la Saint-Valentin. Un peu d'amour pour cette nouvelle sélection aléatoire, avec beaucoup de bouffe, avec des kits pour faire des cupcakes, un mug Rainbow Dash avec une peluche de la Pégase offerte, avec le mug, un petit puzzle qui fait du shipping avec les Pégases du Main Six, et enfin de la contrefaçon chinoise, mais qui lève sans ambiguïté sur la licence qui s'est fait copier. Enchaînant avec la partie fan média et tout d'abord avec la sélection musicale. Commençons tout d'abord avec Through the Wood de A Symphony of Two, c'est de la musique orchestrale assez classique. On y sent un côté mystère dans cette track, poussé par l'envie de proposer une retranscription d'une forêt grâce aux tonalités et à la mélodie utilisée. Passons après à Across the Field de David K. Sunshine. C'est aussi de la musique orchestrale et tirée du jeu Adventure of the Lunar Bolt. Il s'agit du 14e theme song pour le jeu, qui est toujours en développement depuis quelques années, mais qui a subi un coup d'arrêt, et dont les compositions du jeu ont continué à sortir malgré tout. Mais aux dernières nouvelles, il a connu un second souffle dans le développement, donc on peut espérer que le jeu sorte un jour, mais en tout cas les theme songs sont presque terminés. Toujours avec le jeu Adventure of the Lunar Bolt, on va s'intéresser au titre Serentown de Windwolf. Elle est elle aussi orchestrale comme pour la précédente, et venant du même jeu, et est considérée comme la 15ème theme song du jeu, car sortie le jour suivant la track précédente. Elle est constituée d'instruments avant et de guitare, alors que la précédente était plus prisée dans les instruments à cordes et sur les claviers. Passons après au titre Virid Descent de Ataraxia et Intersect, en featuring avec Ink Spark. Alors, c'est un mélange assez particulier puisqu'il mélange de la musique orchestrale avec de la musique électronique. Elle utilise des instruments synthétiques, mais la mélodie et le tempo est repris de la musique orchestrale, le tout accouplé avec la voix de Ink Sparks. Vient après le titre Never Know de Holocene en featuring avec Rhyme Flow. Alors, c'est un genre aussi particulier parce qu'il mélange de la chill out avec du hip-hop. C'est une chanson introspective, car Rhyme évoque les problèmes qu'une de ses amies a connus. Mais par extension, il explique aussi que ce titre a une toute autre signification pour lui, celui de la collaboration, car il déclare que les débuts pour un artiste sont compliqués, car ce dernier ne connaît personne dans le milieu, et que seule la collab peut faire avancer, et aussi peut permettre de développer une certaine amitié avec d'autres personnes. A vous de voir quelle signification vous plaît le plus. Battle Cry de Total Spark est considéré comme du trap hybride. Cette compo a mérité plus de 57 heures de travail. Elle est un mélange avec le tempo de la musique trap et un synthé présent qui souligne quelques temps de pause sur cette piste assez agressive. Moins agressive puisque c'est de la chill out avec le titre Nurture de Violet Pony et Silver. Elles proviennent d'un EP fait par les deux personnes et qui s'appelle Lotus et qui possède 5 tracks. Elles sont centrées sur une ambiance spa assez détendue et assez chic et dont les genres représentatifs sont la chill out et l'ambient. Cela laisse place au titre remixé par Sonic Ramboom, Let the Sunrise, à l'origine faite par Morksh en featuring avec Ichigochi. C'est de la pop expérimentale slash pop psychédélique. Elle est très envoûtante et a été inspirée par l'esthétique d'autres artistes, et Sonic souhaitait en faire une piste expérimentale, car il considérait que la track d'origine avait la capacité de passer par ce genre. Passons par de la synthwave avec le titre The Last Shelter de Nicolas Dominique. Dans ce titre, Dominique délaisse un temps la musique trance pour faire un tour sur les compos positifs. C'est en ayant vu un fanart du même nom qui se lance dans cette piste qui est assez orientée 80s dans sa conception. Il rajoute qu'avec cette compo, il possède aussi une piste non diffusée qui compte mettre en ligne très prochainement, mais que pour celle-ci, elle sera dans un album déjà disponible nommé The Last Shelter B-Slides and Rarities. Le titre qui suit est un remix du titre Aerobrex de Lutarifan et fait par Faulty. C'est de la house progressive. Elle est remixée par un nouveau venu sur un titre très ancien de Lutarifan. Elle a beaucoup de similitudes avec l'original, mais reste à un niveau très haut de production pour une première piste. Le titre suivant est elle aussi un titre house progressive, mais mélangé avec de l'electro house. Il s'agit du titre Stars and Sky de Progressive Element, mais remixé par Undreaming Panic. C'est un remix du même titre qui était dans l'album Ponies at Dawn Voyager, qui, en différence de l'original, qui est plus cool et groove, celle-ci est plus portée sur les moments intenses et longs, mais a conservé la piste vocale qui a été retravaillée dans les graves. On reste avec Undreaming Panic car il a remixé un autre titre, le titre Empire Past de Bang Pain. C'est de la Bass House. Alors que la précédente était plus axée sur le côté dance et électro, celui-ci se place dans une lignée plus dure et très neuro. Le titre Adventure de Airtrill est de type trance. Il y a du piano et du synthé, et elle se veut aussi atmosphérique. Mais il faut l'écouter pour mieux capter l'ambiance de cette track. Neverland Standing a remixé pour le compte de l'album Ponies and Down Amity le titre Nebula de Spectra. C'est de la drum and bass. Elle est caractérisée par un arrière-son ambient et se veut très optimiste avec des parties vocales qui jouent sur la nostalgie. Toujours dans les remixes avec Rooms VR qui a remixé le titre Zen de Cadenza. C'est de la liquid drum and bass. Cette track s'appuie sur les parties atmosphériques et avec des mélodies qui vont dans cette direction et qui installent un sentiment de sérénité. Riazan, quant à lui, a remixé le titre Blaster Shade de N-Arx. C'est de la techno-hardcore. Elle est nerveuse et également plus énergique que la version originale qui était en version dubstep. Vu qu'on parlait de N-Arx dans le point précédent, on va s'intéresser à un remix qu'il a fait, sur le titre Windigo de Fill in the Box. C'est de la dubstep. Cette piste est très expérimentale au vu des tonalités et accords utilisés. La partie neuro de l'original a été supprimée et des parties vocales de Luna's Future ont été ajoutées. Pour terminer cette sélection musicale, on va s'intéresser à 3 titres métal. On commence d'abord avec le titre Searchlights Over Canterlot de Bang Pain et Thrasher. C'est de la neurofunk slash metal extrême. C'est une collab assez déroutante mais efficace qui se traduit par une guitare puissante et des tonalités neuro. Cela s'enchaîne avec le titre Black and Need Hurt de Ponysphere. Il est classé en thrash metal. Ponysphere a voulu faire un peu de changement avec ce titre un peu plus trashy comme il le dit, et dont Secret Metal a participé à la partie mastering. Mais il a affirmé se concentrer sur son prochain titre qui prendra le nom de The Land of Harmony. Enfin, pour conclure la sélection musicale, on va parler du titre Orbit remixé par Brilliant Venture et dont l'original a été assuré par Thrasher. C'est du Metal Step. Il a utilisé l'air de Thrasher comme base, mais l'a arrangé avec de la dubstep pour un design sonore impressionnant et assez hardcore. Commençons maintenant la sélection vidéo avec SC Race Best, dont on parlera plus tard dans la communauté, qui a réalisé Brony's React saison 6 finale. C'est le traditionnel review des réactions de divers Brony. Et ici ce sont Black Griffon, Little Shy FM ou encore Animated James et d'autres qui nous tirent les plus belles réactions que le dernier épisode diffusé à ce jour peut nous fournir. Attention, il y a quand même des paroles crues, donc pour ceux qui n'aiment pas les insultes, passez votre chemin. Passons après à une analyse qui s'appelle Why Recolor Aussi Are Stullible de Tian Daga. C'est une analyse sur l'un des problèmes dans la commu, les OC qui ne sont que des swap colors de personnages déjà existants. On enchaîne après avec Yoshi Greenwater qui a sorti The Brunch Bunch. C'est une vidéo où Lemon Hertz commande un hamburger, mais le resto semble être gastronomique au vu des faibles portions. On note quand même que Greenwater a fait cette vidéo assez conceptuelle pour s'essayer à un nouveau style d'animation et de la combiner dans les prochaines vidéos à venir avec son style Paper Mario. Vient après la vidéo Forget Mem Luna de J-Stars. C'est une bonification d'une vidéo avec Celestia et Luna et dont l'animation a dû être faite sur plusieurs programmes comme After Effects, Photoshop et d'autres. Pour voir la vidéo qui a inspiré cette bonification, le lien se trouve dans la description de cette dernière. Une petite vidéo SFM maintenant avec MLP Pony Dance Club 2 en 60 fps et réalisée par Everfree Team. C'est une vidéo à déconseiller à ceux ayant des problèmes avec les effets stroboscopiques, qui est de la lumière rapide qui apparaît brutalement. Pour ce qui est de l'animation, elle est la suite directe de la vidéo portant le même nom et elle nous montre des séquences de danse de poney dans une boîte de nuit. Mais malheureusement, la vidéo fait 10 minutes, mais elle représente un loop toutes les 30 secondes. Donc, il suffit de l'avoir 3 voire 5 loops maximum et vous aurez vu la vidéo sans la voir entièrement. Passons maintenant à la série des Mentally Advanced Series qui a sorti son épisode 2 de la saison 2. Enfin, plutôt, épisode moins 2 de la saison moins 2. C'est un nouvel épisode où Twilight se retrouve face à une ancienne ennemie qu'elle avait affrontée quelques épisodes avant. Cette vidéo est la première après que l'auteur a déclaré stopper ses travaux à cause du drama qui s'est passé sur YouTube concernant les désabonnements automatiques. Vanna Melon, quant à elle, a sorti la vidéo Fluttershy Plays Tree Simulator, I'm Finally a Tree. Le jeu le plus ennuyant jamais vu, et Vanna le confirme dans les commentaires, car vous pouvez seulement bouger la caméra dans tous les sens, mais seulement dans un angle de 180 degrés. Et c'est tout. Mais pour Fluttershy, elle s'en fout, vu son amour pour la nature. Passons au PMV. On commence d'abord avec la PMV Ego de Danger Dash. C'est une PMV musicale de type rock alternatif centrée sur les deux personnages ayant un culte de la personnalité, que sont Trixie et Starlight Glimmer, et dont le titre ne lève sans équivoque sur le sujet de la vidéo. Vient après une PMV collab qui s'appelle Chasing the Wind. C'est une PMV dont c'est la cinquième de ce collectif chinois, dont le pseudo est impossible à citer sans faire de faute, qui est sur le couple princier de l'univers MLP. Elle est découpée en 7 parties distinctes et faite sur la chanson qui prête son titre à cette vidéo, qui a été faite par Josiah James. Enfin, dernière PMV collab, mais dont cela a été posté sur le compte de Dealfire, qui s'appelle Somewhere Only We Know. Cette PMV a nécessité 5 mois de travail et le nombre de personnes ayant rejoint ce projet sont au nombre de 11, et où les parties faites par les personnes concernées sont marquées en bas à droite de la vidéo. Enchaînons après avec une vidéo bizarre qui s'appelle Yawaraka Taeksi de Tengami. C'est la vidéo la plus bizarre et déconnectée de cette sélection, avec des références notamment aux jeux vidéo. Ensuite on passe à DWK qui a réalisé la vidéo Totally Legit Recap Equestria Girls deuxième partie. C'est la deuxième partie de la review déjantée sur le deuxième moitié de Equestria Girls premier du nom, qui va de la deuxième journée de Twilight dans le monde humain à sa victoire sur Sunset Shimmer. Le tout avec des analyses et commentaires bien doux et gentils. DWK a aussi déclaré que la prochaine vidéo ne sera pas sur un épisode de la série, mais sur le deuxième film qui fait suite au premier, Rainbow Rocks. Dans la lignée des Totally Legit Recap, on va s'intéresser à la série Far Away de Toro Picana, qui a sorti son épisode 5, avec l'épisode 16 de la saison 1 de MLP. Ce nouvel épisode avec l'épisode où la légende du Sonic Rainboom devient réalité dans Cloudsdale, la ville nuage des Pégases. Et au programme de cet épisode, une tentative d'attentat sur Celestia, les Pégases ont des goûts de chiottes en termes de spectacle, et la trahison semble être une seconde nature pour Arity. Enfin, pour terminer la sélection vidéo, on va s'intéresser à StormXF3 qui a sorti sa vidéo Twilight's Apple. La branche française des MLP in Real Life avec Twilight qui a faim et qui se voit offrir une pomme, mais pour l'avoir, il faut la mériter. De quoi la rendre furieuse, car elle a la dalle et la pomme qui a fini par faire une chute de 3 étages est complètement explosée, ce qui scandalise Applejack. Passons maintenant en revue la dernière sélection qui est la sélection Comics Fandom. On commence d'abord avec How Derpy Became Derpy de Songbird Serenade. Comment Derpy a eu ses yeux qui louchent ? Tout est une histoire de bulles. Vient après le comics Clouds de Oofclid. Quand on voit un nuage en forme d'éclair venant d'un nuage, on sait que l'ego de Rainbow Dash est passé par là. Pacific Green, quant à lui, a dessiné Revisiting Restaurant Rao. Après avoir redonné goût à la bonne cuisine à Canterlot dans la saison 6, Pinky et Rarity découvrent qu'un autre restaurant a ouvert, mais il semble que la mascotte a des airs familiers. Pony Berserker, quant à lui, a dessiné Pawn Before Swine. Berzy a écrit ce comics comme une référence à un comics nommé Pearls Before Swine. Mais apparemment, faire un jeu de mots sur Celestia peut être passible de bannissement sur la Lune. Passons maintenant à 3 comics de la série Adarkable Twilight and Friends. Tout d'abord avec Wake Up. Le mode de vie débridé de Vinyl semble poser des problèmes dans sa vie professionnelle. Ou plutôt, on peut dire qu'elle souffre de léthargie aiguë. Ensuite, on passe à Herbal Tea. Spike propose à Twilight du thé qu'elle accepte volontiers. Mais Moondancer révèle au dragon qu'il s'agit non seulement de son thé, mais qu'il sert aussi pour la constipation. Et cela se termine avec For the Love of Spike. Twilight n'arrive plus à retrouver sa marque préférée de céréales au magasin et demande de l'aide à une employée. Et cette dernière le révèle que la production de ce produit a été arrêtée pour cause de scandale sanitaire. Mais apparemment, Twilight n'est pas étrangère à ce drama. Ensuite, on passe à Cold Steel Stallion qui a fait le comics Keep Calm and Sleep. Twilight et Starlight ont prévu de voir un film d'horreur, mais la princesse avoue à son élève qu'elle a peur de dormir après avoir vu des films de ce type. Mais son élève ne semble pas la réconforter, et pire, se révèle comme une tueuse en série après le visionnage d'un film d'horreur. Toxic Mario, quant à lui, a réalisé le comics Rock Solid Foundation. Dans leur jeunesse, Rarity emmenait Pinky pour chercher des pierres précieuses, mais la partie pony avait d'autres pierres à rechercher, et souvent des pierres banales pour une confection spéciale. Puis on passe à Preening Adorably de Darkest Lunar Flower. Entrez dans la vie privée de la princesse de la lune, mais ne vous attendez pas à être accueilli d'une bonne manière. Et enfin, pour terminer la sélection Comics Fandom et la partie fan média, on va parler de Glim Glam and Pals. Glimmer trouve que d'avoir réformé les changelins avec Trixie a été une chose positive pour elle. Mais par contre, elle trouve que passer 2 semaines à boire comme des trous dans une piscine ne joue pas en sa faveur. Mais Trixie a une bonne réponse que Glimmer pourrait mal encaisser. Passons à la partie communauté avec tout d'abord le sondage qui a été réalisé sur le personnage qui s'est le mieux amélioré dans la saison 6. Je pense que la réponse va être sans appel. C'est Starlight Glimmer. Et oui, qui nous a montré en une saison ce qu'elle sait faire en tant que gentille. Et aussi qu'elle a les capacités requises pour avoir le premier rôle dans quelques épisodes. Elle est suivie de manière lointaine par Spike, dont cette saison lui a fait du bien, et l'a fait même remettre en selle après une longue traversée du désert, qui semble avoir été transférée à Applejack, qui arrive dernière de son sondage. Le sondage actuel est un peu plus personnel. Que pensent vos amis à propos des poneys ? Enchaînons après avec les questions-réponses d'Equestria Delize, édition numéro 16. Avec pour ce nouveau numéro et sans sujet sur le clope, dû à des restrictions sur ce sujet sensible par les admins, pourquoi Twilight est autiste, la destinée de Spike, les romances oubliées, et enfin 2 sujets sur Celestia, l'un sur son égoïsme et l'autre plus sérieux sur la probabilité qui n'en est pas moins forte pour certains, l'hypothèse de la mort de Celestia dans le film de 2017. Car même si c'est pour les petites filles, une autre licence d'Hasbro a fait état d'un décès de personnage dans un de leurs films animés. Ça quand même augmente les chances d'avoir Celestia qui peut mourir quand même. Alors vous avez eu il y a 2 semaines le top sur les animations et aussi sur celui des SFM, et bah voici le top 25 qui mélange le tout. Il s'agit du dernier top que G. Haller a fait avant de passer la main à Little Shy FIM. Pour ce qui est du classement, il est assez varié et possède de l'animation 2D, 3D SFM, de l'analyse, de la reprise de jeu, de la parodie de série. Et pour les 2 premiers dont les écarts sont de 30 votes, on y retrouve en 2e position Dors 2 qui était premier dans le classement des animations SFM, et en 1re position The Moon Rises qui lui était premier dans les animations classiques. Ce qui fait que ce sont les premiers de leurs catégories respectives qui arrivent en tête de ce top 25. Une petite annonce quand même. Alors, mercredi, ce sera le jour de Rainbow Dash. Le 1er février sera pour la Pégase Bleue. Alors, on sait pas pourquoi, mais voilà, on le sait déjà. Ce jour sera donc dédié avec tous les éléments qui se rapportent avec elle, que ce soit avec les animations, les comics fandom, les musiques, et j'en passe. Passons après au RPG papier officiel MVP qui a une sortie en mars sur Barnes & Nobles. C'est plus un livre de règles de base que le jeu officiel, qui a maintenant une date de sortie programmée pour le 15 mars. Mais il n'y aura pas d'autres accessoires qui seront attendus avec cette sortie. Mais si vous pouvez pas attendre, vous pouvez la prendre sur le site de Shop Forward, qui lui sera le jour d'avant, et avec le jeu complet. Passons à un jeu vidéo qui s'appelle Pony Edge Chronicles, qu'on n'a pas entendu parler si souvent, qui a ouvert son serveur ce week-end. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un MMORPG en vue isométrique, qui est en développement depuis 2 ans. Et il a ouvert ce week-end pour un test. Dans l'article se trouve une vidéo bande-annonce et le lien du Tumblr où vous pourrez suivre l'avancement de leurs travaux sur ce futur jeu. Mais en l'état actuel des choses, il vous reste encore 7 nuits pour pouvoir en profiter avant que le serveur ne ferme. Terminons la partie communauté avec un mea culpa, en particulier concernant la partie avec AC Rise Best qui était passée à la télévision cette semaine. Alors, habituellement, quand on invite quelqu'un dans une émission pour parler d'une passion peu commune, et surtout dans la séquence nommée It is Weird, en français Est-ce Bizarre, de l'émission en question, et présentée par un présentateur qui est considéré comme un big asshole dans le milieu, c'est compliqué de savoir ce qui peut se dire, se passer, et surtout les réactions que cela peut produire en studio. Pour ma part, ça a été le genre que ça va mal se passer. Mais à la vue de la vidéo du passage de AC, on se rend vite compte que finalement, les moqueries n'ont pas été de mise, malgré le psychologue qui avait une vision légèrement négative de la passion de AC. D'ailleurs, cette réaction rappelle aussi l'émission Comment ça va bien de France 2, qui avait en 2013 fait un sujet sur le fandom, et qu'une personne avait un avis négatif, alors que le reste des avis étaient positifs. Mais que cela n'a pas empêché les critiques de tomber sur cette séquence. C'est un peu la réaction que j'ai eue, mais après avoir vu la séquence, ça s'est avéré être plus sain qu'il n'y paraît. Mais c'était pas gagné quand même. Donc, pas de drama, ni de spaghetti, et encore moins un article avec bande déroulante marquée alerte info sur Horse News. Donc voilà, fin de l'histoire. Ah si, dernière chose avant de passer aux news insolites, AC a témoigné de son passage à la télévision via un petit podcast de plus de 2 heures, où il révèle quand même que la plupart de la séquence était scriptée. Bon, terminons cette émission avec un peu plus de légèreté grâce aux news insolites. Ou plus précisément, une seule news insolite qui pourrait créer une session spéciale pour le concours de cosplay lors des conventions. On pensait déjà que le cosplay était une pratique seulement réservée aux humains. Mais ce qu'on ne savait pas, c'est qu'il existe maintenant du cosplay pour chiens, avec ses costumes de la marque Rubies, taillés spécialement pour des animaux domestiques. Vous aurez le choix avec des chapeaux, des robes et des t-shirts avec des ailes. Seuls Twilight et Rainbow Dash sont représentés dans ce stuff qui sort de l'ordinaire. Et ces vêtements ne peuvent être mis que pour des chiens de petite taille, et non à des bergers allemands ou des lévriers afghans par exemple. La date de sortie est indiquée pour 2016, ce qui veut dire qu'elles sont déjà en vente. Mais apparemment, les dates pourraient être pour 2017, car premièrement, personne n'en a entendu parler, et deuxièmement, le logo de la licence MLP aujourd'hui est violet, ce qui indique que cela viendrait du stuff de 2017. Car si cela avait été sorti en 2016, le logo aurait eu son habillage précédent, qui était rose. Et c'est sur une idée ouverte sur le cosplay canin en convention que s'achève l'Hebdopony numéro 137. Merci de votre écoute et rendez-vous dimanche prochain pour l'Hebdopony numéro 138. Samedi prochain sera aussi prévue la radio libre avec le président de la Bericon, et où de nombreuses questions lui seront posées sur la convention à venir, qui avait été reculée l'année dernière à une date indéterminée. Bonne soirée à toutes et à tous, et bonne écoute sur Radio Brownie.